Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes avec Carole Jouffrin, bonjour.
Bonjour.
Carole, tu es ici pour nous présenter, on peut dire ça, deux spectacles, dont l'un que tu as joué hier aux agités du local, qui s'appelait « Autour du plaisir des femmes ». Et puis pour le 9 février, à Saint-Julien-en-Quin, au Bistrot Badin, là, tu interpréteras contes et chants des humains, des arbres et de la forêt.
C'est ça.
Globalement, ça parle de quoi ? Par exemple, on va partir déjà autour des plaisirs des femmes.
Mmh. Alors, autour du plaisir des femmes, c'est donc un set de contes, chants et marionnettes sur le plaisir féminin. Moi, mon métier, avant tout, c'est d'être une conteuse. Donc, voilà, sur quoi je travaille d'abord, c'est sur les contes. Donc, des contes de tradition orale dont je prends la trame et puis que je m'approprie. Et puis, il y a aussi des chants traditionnels, des chants populaires. Et une marionnette Rosemonde qui n'est autre qu'un clitoris, qui vient faire une petite leçon d'anatomie et donner quelques conseils pratiques avec beaucoup d'humour. Ce solo-là, je l'ai créé à la suite d'un spectacle que je jouais en duo, qui s'appelait Prendre corps. Donc là, j'étais en duo avec un musicien et comédien qui s'appelle Inouk. Et pendant plusieurs années, on a joué ce spectacle sur la sexualité à deux. Et puis, Inouk a pris d'autres chemins dans sa vie professionnelle. Et donc, j'ai tiré de la matière de ce spectacle-là. J'ai rajouté d'autres chants, d'autres contes. Et j'en ai fait ce solo que j'ai présenté hier aux agités du local.
Alors, un spectacle engagé, féministe ?
Oui. À la fois, c'est un... C'est un spectacle où c'est sûr que je fais passer pas mal de messages qui me sont chers. Moi, je me considère comme féministe, donc j'imagine aussi que les messages que je passe ont quelque chose de ça. Maintenant, moi, ce que j'aime bien avec ces médias-là, que sont les contes, les chants, c'est que c'est aussi beaucoup de poésie. Et c'est une parole que je propose et les gens y prennent ou y prennent pas. Mais en tout cas, c'est pas un discours didactique ou moralisateur, quoi.
Qu'est-ce qui motive le fait de proposer ces spectacles autour de la sexualité, de la féminité ? Peut-être qu'il y a un troisième mot, mais il ne me vient pas à l'esprit tout de suite.
Oui, bah alors à la base, à la toute base... Il y a mon questionnement personnel sur la sexualité, sur les rapports hommes-femmes, sur le plaisir féminin. Et puis il y a le constat aussi qu'on vit dans une société où entre les discours biologiques des cours de SVT à l'école et puis le porno, eh ben, il n'y a pas grand-chose d'autre pour nous parler d'amour et de plaisir. Moi, comme beaucoup de femmes de mon âge, j'ai vécu mes débuts dans la vie sexuelle sans jamais avoir entendu parler de consentement, de mon plaisir, voilà, d'amour charnel en fait. Et je trouve que c'est très dommage et que ça fait du bien d'en parler. Et aussi, voilà, on est dans une époque là où on parle de plus en plus de tout ça, où on a découvert vraiment la vraie anatomie et le véritable fonctionnement du clitoris hyper récemment. Et quand j'ai appris ça aussi en lisant des livres, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est incroyable qu'en 2017, on sache pas ça, il faut que tout le monde le sache. Et donc, j'ai voulu faire cette marionnette. Donc voilà, il y a une envie de diffuser les informations, qu'on en sache un peu plus sur ces sujets-là, aussi pour que nous, les femmes, on puisse se prendre en main, si j'ose dire. Et voilà, oui, La volonté de proposer un autre discours, en fait, de relier le plaisir à l'amour aussi, à la poésie, et de poser une autre parole sur la sexualité et une parole de femme. Parce que, bon, sur la sexualité, comme sur tous les autres sujets, la parole dominante ces derniers siècles a quand même été masculine, à mon sens. Donc voilà, je pense qu'il est temps que ça change. C'est aussi pour ça que ça s'appelle « Autour du plaisir des femmes ». C'est un petit jeu de mots avec « autour » en un mot, et puis « autour » aussi. Dans, autour en deux mots, dans le sens où, ben, ça y est, c'est aussi, ça peut être aussi à notre tour maintenant d'en parler et d'assumer ça.
Alors, c'est en quelque sorte, est-ce que ça serait de l'éducation populaire ou est-ce que tu joues dans des endroits ou des manifestations qui prônent justement une certaine éducation populaire vis-à-vis de la sexualité en général et voire féminine? Est-ce que ça vous arrive?
Alors moi, en fait, suite à ce premier spectacle sur la sexualité qui s'appelait « Prendre corps », et suite à des activités pédagogiques et d'animation, effectivement, moi j'ai fait pas mal d'éducation populaire, ça m'a semblé tout naturel de me former en éducation à la sexualité. Et donc maintenant j'interviens en éducation à la sexualité, pour l'instant que dans des lycées, mais je pourrais le faire aussi dans des collèges ou dans des MJC. Et donc, voilà, je fais des ateliers d'éducation à la sexualité, mais en partant toujours de supports artistiques. Donc, j'amène dans la classe les contes, la marionnette, des chants, des extraits de films, des images. Et c'est ça qui nous sert de support pour discuter ensemble avec les élèves et avancer. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a cette idée qu'il faut que l'information circule, ouais.
Je voulais savoir, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour, comme vous disiez tout à l'heure, entre la biologie de SVT et le porno, pour vous, qu'est-ce qui manque entre les deux? Et est-ce que vous œuvrez ou est-ce que vous réfléchissez, même à plusieurs, sur cette lacune?
Ben moi, j'essaye d'œuvrer avec ce spectacle, avec ces ateliers aussi que je donne. Et oui, pour moi, on manque cruellement de cette dimension affective. Et voilà, on parle pas, on relie très peu finalement le sexe à l'amour dans les discours médiatiques ou biologiques.
Est-ce que, par exemple, si les cours avaient lieu dans la nature au lieu d'une salle aseptisée d'un établissement scolaire, ça modifierait le cadre?
Oui, il faudrait essayer.
Non, mais je pose la question parce que je pense aux écoles classiques grecques mm-hmm. où ça se faisait en extérieur, en plein air. Mm-hmm. Par contre, c'est vrai qu'au niveau féminisme, je crois que les auteurs classiques grecs, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose.
Hein. Non, c'était pas vraiment
non,
la
pas
mode
du tout
à l'époque.
Ouais. Bon, c'est ambivalent, hein, ma remarque. Et on va aborder donc ensuite, on en reparlera encore autour des plaisirs, du plaisir des femmes, mais on va aborder aussi le 9 février, donc à Saint-Julien-en-Quin, au Bistrot Badin, les contes et chants des humains, des arbres et de la forêt. Pourquoi ce titre aussi long?
Parce que j'avais envie qu'il y ait dans le titre que c'est des contes et des chants. Il y a aussi des poésies dans ce set. Et c'est sur les arbres et la forêt, mais en fait, en parlant des arbres et de la forêt, je parle aussi des humains et du lien qu'entretiennent les humains avec les arbres et la forêt.
Vous parliez tout à l'heure de poésie, donc des poèmes de votre écriture ou alors d'autres auteurs?
Alors dans ce set-là, sur les arbres et la forêt, je dis deux poèmes d'auteurs. Il y a un poème de Jacques Prévert et un poème de Robert Sabatier.
Cette forêt, ces arbres, ces humains, qu'est-ce que ça raconte?
Qu'est-ce que ça raconte? Mais en fait, il y a plusieurs contes, plusieurs chants, plusieurs poésies. Donc,
c'est un parcours?
Ouais, on peut dire ça. Ça parle du rapport entre les humains et la nature, comment parfois en tant qu'humain on peut se sentir complètement coupé, étranger de la nature, des arbres, avoir l'impression qu'on est des espèces différentes qui ne parlent pas le même langage et qu'on ne pourra pas se rejoindre. Et puis comment des fois au contraire peut y avoir cette communion et cette familiarité avec l'environnement naturel autour de nous. C'est parler aussi avec notamment un conte merveilleux qui est dans ce set de tout ce qu'on a à gagner, à découvrir et à s'émerveiller des mystères de la nature.
La nature ici est partie prenante dans ton inspiration ?
Oui, beaucoup. Mais d'ailleurs, en général, quand je commence les contes et chants des arbres et de la forêt, je commence en disant aux gens que moi je travaille presque toujours mes histoires en marchant, puisque j'ai la chance d'habiter dans un endroit où j'ai juste à sortir de chez moi pour partir marcher dans la forêt. Et donc je travaille toutes mes histoires dans la forêt, en fait, au milieu des arbres. Donc quand je partage ces histoires-là avec les gens, j'ai un peu l'impression de les emmener avec moi dans ces moments d'intimité avec mes histoires et la nature.
Alors, quand tu te présentes au public, tu as un accompagnement musical, sonore, ou alors tu es seule face au public ?
Alors, moi, ce que je fais, c'est très sobre. Et je l'assume, c'est ça que j'aime aussi. Du coup, je suis toute seule. Je n'ai pas d'instrument de musique, mais j'ai ma voix. Je chante. Et puis, je fais un peu de percu corporel, voilà. Donc, il y a un peu de rythmique aussi. Mais c'est tout, c'est juste avec ma voix, mon corps.
La rythmique corporelle consiste en quoi ? Ça m'interpelle un peu.
Eh ben, je vais taper sur mes mains, sur mon corps, pour rythmer le chant.
D'accord, bon, tout simplement. Et ce spectacle, Contes et Chants, ça s'adresse à tous les âges ?
Alors, je l'ai mis à partir de 8 ans.
Oui, parce que ça nécessite une concentration quand même, une écoute.
Oui, parce que ça dure une heure, qu'il y a des... Voilà, par exemple, les poésies qui ne sont pas forcément adaptées à des petits. Mais après, ça dépend beaucoup des enfants. Je le mets à partir de 8 ans parce que ce n'est pas un spectacle que je vais jouer en scolaire devant 150 CP. Ça, c'est sûr, je jouerai autre chose pour les 150 CP. Mais en famille, voilà, s'il y a quelques enfants qui ont moins de 8 ans, si c'est des enfants qui aiment écouter les histoires, ça va très bien se passer.
Alors, Carole Geoffrin, tu es comédienne en même temps, avant tout, ou simplement conteuse ?
Moi, je me définis vraiment comme conteuse. J'ai une formation de comédienne, mais j'ai jamais fait ça professionnellement. Ça m'aide et ça nourrit ma manière de raconter.
Tu as toujours travaillé pour toi ?
Oui, c'est mon premier métier, conteuse.
Et ça fait combien d'années alors que tu exerces ?
Eh bien, ça va faire 6 ans bientôt.
Et, bon, je ne sais pas si tu possèdes le statut d'intermittente.
Par intermittence.
Mais tu es quand même à jouer souvent plus dans des lieux de l'éducation nationale ou alors dans des lieux de théâtre ?
Alors, c'est très varié. Il faut savoir que, déjà, statistiquement, le premier employeur des conteurs et des conteuses, ce sont les médiathèques. Bon, maintenant, avec ce qui se passe en ce moment et toutes les baisses de budget, les médiathèques ont de plus en plus de mal à faire venir des conteurs. Ensuite, il y a les festivals, bon, qui ont le même problème en ce moment, mais il y a quand même pas mal de festivals de contes encore en France. Et puis, voilà, après, ça peut être aussi dans plein d'endroits très différents, donc comme les écoles, des structures sociales ou médico-sociales, des lieux associatifs, ça peut être chez l'habitant. En fait, ce qui est bien avec le conte, c'est que comme c'est très sobre et qu'il n'y a pas forcément besoin de gros dispositifs scéniques, parfois juste une chaise et puis 2 mètres carrés, ça suffit. Et du coup, ça peut se glisser partout.
Bon, tu nous as un peu parlé déjà de tout ce que tu as exercé avec les spectacles comme Prendre Corps et puis donc autour du plaisir des femmes. Tu en as d'autres, tu disais oui. Tout à l'heure pour les CP, tu dois avoir ce style de spectacle aussi.
Oui, en fait, je commence à en avoir pas mal. J'en ai un à partir de 3 ans qui s'appelle Dans mon jardin. Donc sur le jardin, les plantes, les petites bêtes, les légumes. J'en ai un autre qui s'appelle Dans la gueule du loup. Là, c'est des contes de dévoration. Ça, c'est mon premier spectacle. Et c'est à partir de 6 ans, mais voilà, c'est très bien pour les adultes aussi. Il y a un autre spectacle qui s'appelle Et pourquoi ça ? Avec que des contes des origines. Là, c'est à partir de 5 ans. Il y a aussi Contes tombés du manguier avec des contes d'Afrique de l'Ouest, parce que j'ai passé pas mal de temps en Afrique de l'Ouest. Voilà, il y a pas mal de choses possibles, en fait. Parce que parfois, ça m'arrive aussi de composer des choses pour un événement particulier, pour un thème. Parce que j'ai mes spectacles, mais j'ai aussi mon répertoire avec plein de contes qui ne sont pas forcément dans des spectacles. Et donc, voilà, je peux aussi tricoter des choses comme ça. Tout ça, c'est sur mon site.
Très bien. Et d'ailleurs, tu peux nous l'indiquer, ce site?
Oui. Alors, c'est www, et ensuite, c'est en toutes lettres et tout attaché, compagnieécoutezvoir.com. Écoutez, c'est EZ à la fin.
Je voulais savoir, ton regard sur le statut de conteur, est-ce que c'est quelqu'un qui se promène sur les routes et qui s'arrête dans les villages pour lâcher quelques paroles et puis qui repart? C'est un peu cette idée-là de toi?
Alors ça, c'est une vision un peu romantique.
Oui, bah, c'est ma naïveté. Hein,
du troubadour. C'est vrai que ça fait rêver, moi aussi. Hein. Et ça m'arrive de retrouver ça, voilà, de faire des semaines de marche où je vais dans les villages. Et, maintenant, la vie quotidienne, quand on essaye d'avoir... la société dans laquelle on vit aujourd'hui, voilà, c'est plus tellement comme ça que ça se passe. Et c'est plutôt essayer de trouver des lieux qui auront envie de m'accueillir. Et puis, le bouche à oreille, il y a aussi des gens qui m'appellent. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est vraiment une rencontre, à la fois avec les gens qui accueillent et puis avec le public. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup aller jouer dans les... Alors, c'est pas un jugement de valeur, mais les petits lieux, comme les agités du local ou le Bistro Badin, qui sont des lieux qui sont pas des programmateurs professionnels de spectacles, donc qui vont pas avoir l'argent pour m'acheter un spectacle, mais qui vont faire de leur mieux pour que j'ai un bon chapeau et que je puisse quand même me faire un cachet, et qui vont surtout avoir vraiment envie. Et c'est vrai qu'hier, j'étais super bien accueillie aux agités, et je trouve que c'est beau, ouais, d'aller dans ces lieux-là où c'est des gens dont c'est pas le métier qui font ça vraiment parce qu'ils en ont envie et parce qu'ils ont envie de soutenir la culture et de rassembler les gens. Et ça me parle.
Avant d'être conteuse, comédienne de formation, tu te destinais tout de suite au spectacle vivant ?
Oui. Oui, en fait, c'était très clair depuis que je suis petite. Alors bon, comme ma maman avait peur à un moment, je pense que inconsciemment pour la rassurer, j'avais dit que je travaillerais dans la culture, mais dans les bureaux. Mais je n'ai pas tenu longtemps ce discours parce que l'envie d'aller sur scène m'a très très vite rattrapée. Voilà, après, je ne connaissais pas comme... Comme beaucoup de gens, je connaissais pas ou pas bien l'art du conte. Donc moi, j'ai cherché pendant quelques années vraiment ce que j'allais faire sur scène. Je savais que je serais sur scène, mais je savais pas bien pour faire quoi. J'ai fait une école de théâtre, mais je savais que je serais pas comédienne, que j'avais pas envie de jouer Racine. Et puis moi, je viens beaucoup du corps à la base. J'ai fait énormément de danse. Et quand j'ai fait mon école de théâtre, j'étais très intéressée par le mime, le masque, toutes les disciplines vraiment corporelles. Donc j'étais plutôt partie dans cette idée-là. Et puis je me suis formée aux marionnettes aussi. Et finalement, j'ai rencontré les contes et ça m'a attrapée, quoi. Et tout ce que j'avais fait avant me sert pour ça.
Oui, je voulais revenir, j'avais cette question. Par rapport au festival, j'avais quelqu'un au micro cette semaine aussi, qui est comédien et qui travaille beaucoup des spectacles de texte, proprement dit. Et il trouvait beaucoup de difficultés dans des festivals à trouver des dates auprès des organisateurs, parce que la parole, il semblait un peu réticent sur des spectacles qui pouvaient durer une heure et demie, de peur de lasser un public, par exemple. Mmh. Est-ce que cet écueil-là, ou enfin, cette embûche-là, tu la trouves aussi dans tes dates ou dans tes recherches ?
Alors, pas vraiment, parce que du coup, je vais surtout dans des lieux qui programment du conte ou qui ont déjà vu des conteurs et qui aiment ça. Donc, c'est assez acquis que le média, c'est la parole. Maintenant, c'est vrai que aujourd'hui, il y a une tendance qui est très intéressante et que j'utilise moi-même, hein, à mélanger les arts sur scène. Mais du coup, je pense qu'il y a une petite vigilance à avoir aussi du côté des programmateurs pour pas que ça devienne une règle. Et il y a cette peur de lasser. On est dans une société où tout va vite, on est habitué à zapper les infos hyper vite, faut être stimulé tout le temps. Et je pense que oui, ça peut faire peur aussi, cette idée que pendant une heure, il y a une personne qui va ne faire que parler et que les autres vont juste avoir à se laisser bercer et à s'asseoir bien confortablement dans le fond de la chaise. Et voilà, ça peut être un peu dur d'imaginer qu'ils ne vont pas s'ennuyer. Ouais. Mais moi, c'est ça aussi que j'ai envie de défendre. C'est ce que j'aime aussi dans le conte, c'est cette simplicité, c'est cette proximité avec le public. C'est que moi, je viens en tant que moi-même, je ne suis pas un personnage, je suis moi-même qui vient raconter des histoires très simplement. Et donc, voilà, je m'adresse directement, il n'y a pas de quatrième mur. Et c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. C'est une des premières choses que les humains ont fait, se raconter des histoires. Et ce qui est fabuleux, c'est que ça marche encore et qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour se faire notre petit cinéma intérieur. À l'heure d'aujourd'hui, ça me semble encore plus important de défendre ça. Quand on est voilà, dans une époque où on nous impose tout le temps des images, beaucoup d'écrans... Ouais, j'ai envie de défendre cette simplicité et de donner aux gens l'occasion de lâcher prise et de laisser leur imaginaire voyager.
Thank you.
revient au spectacle autour du plaisir des femmes. Là aussi, tu es seule et tu as une marionnette.
Avec la marionnette, je sors un peu du cadre de mon travail de conteuse, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est pas un artifice ou un accessoire, c'est un personnage à part entière qui dit des choses que je pourrais pas me permettre de dire moi, en tout cas pas comme ça. Et c'est aussi parce que cette espèce de petit truc rose bizarre qui a une drôle de forme, qu'elle peut se permettre d'avoir une parole beaucoup plus cash et beaucoup plus comique, beaucoup moins poétique que celle que j'ai moi en tant que conteuse.
Pourquoi aboutir à la représentation du clitoris dans son entier, puisqu'on en perçoit qu'une toute petite partie? Quelle est l'idée de vouloir montrer cet organe tel qu'il est? Je ne sais pas si c'est en contrepartie du phallus. C'est une réponse? C'est quoi?
Bah, comme je te disais tout à l'heure, en fait, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet de la sexualité et du plaisir féminin, j'ai découvert que j'avais un clitoris qui était aussi grand qu'un pénis, qui était en grande partie à l'intérieur de mon corps, et j'ai découvert comment ça fonctionnait. Et ça m'a semblé complètement aberrant que alors qu'on connaît très bien le phallus et qu'on l'a étudié sous toutes ses coutures depuis l'Antiquité, on a toujours nié et passé sous silence l'existence et le fonctionnement du clitoris. Et donc oui, ça m'a semblé très important d'essayer avec ma modeste participation, d'apporter ma petite goutte d'eau pour faire changer les choses, ouais. Et c'est vrai que quand j'ai commencé avec Rosemonde, donc Rosemonde c'est la marionnette, hein, quand j'ai commencé avec elle, on commençait tout juste à entendre parler de la véritable anatomie du clitoris, mais la plupart des gens connaissaient vraiment pas du tout. Et depuis, là, ces dernières années, on en parle de plus en plus. Il y a des BD, des films, des objets. Donc ça y est, ça commence à se développer. Mais bon, je pense qu'il y a encore du boulot, quoi. Là, à la rentrée dernière, il y a eu un manuel, je crois que c'est Attier, un seul manuel de SVT qui a enfin, pour la première fois dans l'histoire, mis un clitoris, un dessin de clitoris exact, qui n'était pas juste un tout petit point.
Ou un haricot.
Voilà.
Oui.
Donc, je pense que le jour où tous les manuels de SVT auront une description correcte de cet organe, déjà on aura fait un petit pas, ouais.
Justement, le fait de pouvoir représenter le clitoris aujourd'hui et qu'il y ait une certaine, revendication, est-ce que ça indique aussi que la femme s'émancipe ou s'est émancipée?
Alors pour moi tout ça c'est un chemin, hein. Je pense que ni les femmes ni les hommes on peut dire qu'on est complètement émancipé. On est encore dans une société où on est éduqué avec des codes de genre qui sont quand même hyper forts, même si on commence à les remettre en question. Maintenant je pense que oui, le chemin part vers la liberté et vers le choix d'être qui on a envie d'être, il passe aussi par la connaissance de soi et donc par la connaissance de son corps. Ouais.
Est-ce que tu penses pouvoir nous interpréter quelque chose là, ou un petit poème de Prévert par exemple?
Mon père m'a donné un mari, mon Dieu quel homme, quel petit homme. Mon père m'a donné un mari, mon Dieu, quel homme qu'il est petit. Je l'ai perdu dans mon grand lit, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Je l'ai perdu dans mon grand lit, mon Dieu, quel homme qu'il est petit. Je pris une chandelle et le cherchis, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Je pris une chandelle et le cherchis, mon Dieu, quel homme qu'il est petit. À la paillasse le feu prit, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. À la paillasse le feu prit, mon Dieu, quel homme, qu'il est petit.
Je trouvais mon mari rôti, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Je trouvais mon mari rôti, mon Dieu, quel homme, qu'il est petit. Sur une assiette, je le mis, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Sur une assiette, je le mis, mon Dieu, quel homme, qu'il est petit. Le chat l'a pris pour une souris, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Le chat l'a pris pour une souris, mon Dieu, quel homme, qu'il est petit. Au chat, c'est mon mari, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Au chat, c'est mon mari, mon Dieu, quel homme, qu'il est petit. Fillette qui prenait un mari, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Fillette qui prenait un mari, ne le prenez pas si petit. Et alors cette chanson, je voudrais juste en dire un petit mot. Moi, c'est une chanson que j'aimais beaucoup quand j'étais petite, qui a l'air très joyeuse comme ça. Seulement, on s'imagine pas quand on l'entend qu'en fait, c'est une chanson de mots mariés. Alors, c'est une chanson qui date du 17e et les mots mariés, c'était en fait les mâles mariés. Et c'était les filles qu'on mariait de force et qui tombaient pas toujours très bien. Donc cette chanson, voilà, toute légère et joyeuse et moqueuse, elle est aussi pleine d'ironie. Et je pense que oui, c'était voilà encore comme toutes les expressions populaires, les chants et les contes, ils servent parfois aussi à prendre une petite revanche par rapport à ce qu'on a le pouvoir.
Tu t'es intéressée à Béatrice Dedi un peu ou pas?
Non, je ne connais pas.
Dont il y a l'effigie au square de la comtesse, hein, sur cette fontaine, qui était une chanteuse aussi, je crois, au XIIe siècle, et qui venait de Marseille et qui s'est établie ici avec un seigneur et dont elle s'est vite lassée. Et donc, elle chantait un peu ses tristesses. Et voilà, c'est compliqué, mais il y a une histoire à voir. Et je crois qu'il n'en reste qu'un texte de ses chansons. Je ne sais pas s'il existe beaucoup d'autres choses. Il y a très peu de documents sur elle. Est-ce que, d'après toi, je ne sais pas si tu es du côté de Cray.
Oui.
Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu viens dans le Digua de temps à autre?
Oui.
Et pour toi, quelle est la part de la femme sur ce territoire?
Alors
est-ce
là,
que tu... Non.
Moi, je ne connais pas du tout assez pour porter un regard ou un jugement là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que à chaque fois que je fais des choses autour du plaisir féminin et de la sexualité, bon, en général, partout où je vais, je constate que ça fait du bien d'en parler, ça fait du bien d'en entendre parler, et que les gens répondent quand même présents, que c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Ici, j'ai la sensation que oui, c'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup, et les femmes et les hommes, et que oui, on est dans une ère géographique où on réfléchit pas mal au rapport homme-femme, au genre, à la sexualité, et où il y a une envie de s'informer, de dialoguer. Voilà, il y a une belle ouverture.
Il t'arrive parfois d'enregistrer aussi des textes ou des lectures?
Oui, alors si vous allez sur mon site, vous aurez les liens vers le SoundCloud où il y a les chansons et les contes de Prendre Corps. Et donc certains qui sont autour du plaisir des femmes. Voilà, et puis oui, j'aimerais bien réenregistrer aussi d'autres choses plus tard.
Eh bien, nous allons terminer cette émission et rappeler aux auditeurs les contes et chants des humains, des arbres et de la forêt au Bistrot Badin à Saint-Julien le 9 février. À partir de quelle heure?
Alors, le spectacle est à 19h. Donc, vous pouvez venir un petit peu avant pour boire un délicieux verre de vin parce qu'ils ont des très bons vins au Bistrot Badin. Et vous pouvez aussi rester après. C'est plutôt conseillé de réserver. Pour manger, voilà, parce que ils font aussi une excellente cuisine. Si vous connaissez pas ce lieu, vraiment, ça peut être une belle occasion de le découvrir. C'est une chance, je trouve, d'avoir un lieu aussi sympathique et des produits d'aussi bonne qualité voilà, qui vient d'ouvrir là, tout près d'ici.
Et puis une dernière question, étant dans un peu proche du Diwa, est-ce qu'on aura la possibilité de te redécouvrir aussi tout au long de l'année ? Et par là même, je soulignais par rapport à ce que tu disais, le fait que ce spectacle autour du plaisir des femmes intéressait beaucoup de monde et libérait la parole. Est-ce que vous envisageriez, toi ou d'autres personnes, de mettre ça au goût du jour et peut-être d'établir des rencontres régulières dans ce domaine?
Alors moi c'est pas mon rôle et c'est quelque chose dans lequel j'ai aucune expérience et voilà, je pense qu'il y a des gens qui le font bien mieux que moi, d'organiser des rencontres et de mener des discussions, des échanges. Donc voilà, je laisse ça à ceux qui savent faire. Moi, par contre, ce que je fais, je pense que ça peut être un très bon point de départ pour une discussion, pour des ateliers. Donc oui, il y aurait des choses à faire, oui.
Justement, quand tu donnes ces contes ou ces spectacles devant des lycéens, est-ce que chez eux-mêmes, ça engage des dialogues avec toi? Ou alors ensuite, il y a certainement, comme tout bon professeur, un travail en aval de ce qui a été fait en scolarité?
Alors, moi, il faut savoir que quand j'interviens au lycée, c'est vraiment pour faire de l'éducation à la sexualité. Donc, c'est sûr que ce que je propose, les contes, les chants, la marionnette, c'est vraiment un point de départ. Et moi, je vais vraiment chercher la parole des élèves pour analyser qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce qu'on a ressenti chacun, et puis à quoi ça nous fait réfléchir, qu'est-ce que ça nous pose comme question, et à partir de là, discuter, oui.
Merci Carole Geoffrin d'être venue à RDIWA pour
Merci.
Nous présenter ce spectacle, à savoir si on pourra te revoir dans l'année à venir. Tu n'as rien prévu encore pour le moment.
Tout ça c'est sur mon site, donc je rappelle c'est www.compagnieécoutezvoir.com en toutes lettres. Après sachez que je peux jouer un petit peu partout, y compris chez l'habitant, donc si vous avez envie n'hésitez pas à me contacter via mon site. Et puis sinon, il y a déjà le 9 février au Bistrot Badin.
Carole, au revoir et bonne soirée.
Merci.
Interview. 1-terre-view.
Okay, the bird.